Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
On pourra penser, en écoutant cet épisode intitulé « L'adoption pour tous », au tsunami réactionnaire qui s'est abattu sur l'Amérique depuis quelques semaines. Il vise particulièrement ce qu'on appelle outre-Atlantique DEI. DEI, ça veut dire « Diversity, Equity et Inclusion ». Et depuis le décret du 20 janvier, tous les programmes et initiatives soutenus par l'État et destinés à promouvoir ces valeurs, la diversité, l'inclusion et l'égalité, ont été supprimés, les personnels virés et les budgets coupés. Ça concerne aussi bien les écoles, les universités, l'armée, toutes les administrations et ça touche un pan énorme de la société. Je ne comprends pas bien, en fait, comment on peut être contre l'égalité ou contre la diversité ou l'inclusion. Mais en réalité, le décret vise clairement à cesser de protéger ou de soutenir les personnes discriminées. Racisés, les femmes, les personnes LGBTQI+, les personnes en situation de handicap, etc. Et sans même qu'on leur demande quoi que ce soit, pour plaire au président sans doute, eh bien des géants comme Meta, McDonald's, Walmart, Disney, Google et Toyota ont joyeusement emboîté le pas et mis fin à leur programme de DEI. Je vous dis ça parce que l'Amérique, ça n'est pas si loin que ça, que ce qui se passe là-bas finit souvent par arriver chez nous, comme Disney et McDo, et que ça commence par de petites choses. Tout de suite donc, dans Les Pieds sur Terre, on se réjouit d'avoir voté le mariage pour tous et ouvert l'adoption aux couples de même sexe. Et on espère que ça continue. L'adoption pour tous par Timothée de Roglaudre.
Je m'appelle Jean, j'ai 34 ans, j'habite dans le Pas-de-Calais, donc dans le nord de la France, et je suis formateur pour une association en addictologie. J'ai la chance de faire partie d'une famille nombreuse. En tout, on est 5 frères et sœurs. Je suis le petit dernier de la famille, donc le petit cadet. J'ai grandi entouré du coup de mes 3 grandes sœurs et mon grand frère. Un père absent, mais c'était pas bien gênant. Quand j'étais assez jeune, aux alentours des 18 ans, quand j'ai assumé mon homosexualité, je me suis dit que j'allais faire une croix sur une possible parentalité parce que je m'imaginais pas, moi, en tant que père et partageant ma vie avec un autre homme. Donc, c'était un petit peu délicat. Et puis, en grandissant et en devenant un peu plus mature, du coup, je me suis dit que finalement, bah, c'était possible. Et c'est une fois que j'ai rencontré mon conjoint actuel. Lui, il avait aussi un désir de devenir père. Et puis bon, comme c'est une histoire qui fonctionne, du coup, on s'est dit, bon, allez, pourquoi pas. On a assez rapidement balayé l'option de faire un enfant biologique. Moi, je n'ai jamais ressenti de désir biologique d'être père. Lui, peut-être un peu plus. Faire appel à une mère porteuse, on a balayé aussi très rapidement ces questions-là. Et donc, on s'est tourné vers l'adoption très naturellement. Alors, quand on parle d'adoption, on entend souvent le parcours du combattant. C'est très flou. Pour notre part, on a la chance d'avoir une amie qui est assistante sociale, qui du coup nous a énormément enseigné sur le processus, sur un peu comment ça se déroulait. La première démarche est d'écrire un courrier. On ne sait pas exactement qui lit le courrier, mais on s'adresse au président de département. Ça devait être au mois de juin 2023. On s'appelle un tel et un tel. On a tel âge, on est ensemble depuis autant de temps, et on a un désir de fonder une famille et d'accueillir un enfant. Bon, c'est un truc très simple, quoi. Et puis c'est tout, après, petite formule de politesse, on a envoyé le courrier. Par là, au début de l'été, il fait beau, on se dit, allez, quoi, on y va. YOLO. Et on a eu un retour en recommandé au bout d'un mois et demi. Dans la réponse, il nous donne une date en disant, bah voilà, on vous attend tel jour, merci de confirmer, si possible pour vous. Nous, il y avait 10 couples qui étaient présents. Quand on est arrivé, on a remarqué qu'il y avait 2 autres couples homosexuels hommes. Et donc, du coup, on s'est dit, ah bah, tiens, finalement, on représente dans la salle 30%, c'est pas rien quand même. Donc, très vite, on s'est dit, bon, bah, c'est plutôt engageant, entre guillemets. En tout cas, on s'est pas senti les bêtes de foire, quoi. On n'était pas les seuls. Et donc, du coup, c'était même plutôt chouette. La réunion, ensuite, elle dure toute la journée. Et puis oui, ils nous disent que voilà, accueillir un enfant, l'adoption, c'est une démarche compliquée, que ça peut mettre beaucoup de temps, que ça peut peut-être ne jamais se produire. Donc évidemment, ils mettent un peu de réserve là-dessus et c'est totalement normal. J'ai en mémoire un monsieur qui était pas très loin de moi, qui avait posé une question, et la dame qui gérait la réunion, n'a pas prêté de sens très humain, assez froide. Et on se dit quand même qu'on est au département, à l'aide sociale à l'enfance, on est dans une salle bibliothèque, avec plein de bouquins autour de nous qui parlent de la parentalité, de l'enfance, de la construction de l'enfant, du développement de l'enfant. Et puis, finalement, la réunion n'est pas très interactive, pas très humaine. Mais bon, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, on fait la journée. Ils nous disent, voilà, si vous voulez aller plus loin et déclencher une vraie démarche d'adoption, il faut envoyer un recommandé, avec des documents administratifs, évidemment. Alors, une fois qu'on a envoyé le recommandé, là, dans ce cas, on reçoit un courrier pour dire « Ok » et va s'enchaîner une phase d'évaluation. Et donc, du coup, l'évaluation se déroule sur 9 mois. On est accompagné par une assistante sociale et une psychologue. Dans notre cas, c'était 2 femmes. À savoir que l'assistante sociale, on doit l'avoir minimum 3 fois et la psychologue minimum 2 fois. C'est des rencontres qui durent sur une demi-journée où on prend le temps un peu d'échanger autour du projet. Donc on a reçu un courrier avec les prénoms, noms et coordonnées de chaque professionnel. Et normalement, ils doivent prendre contact avec nous. Nous, au bout de 2 mois qu'on a reçu le courrier, on n'avait toujours pas de retour, ni par mail, ni par téléphone. Donc du coup, j'ai appelé l'assistante sociale directement, qui m'a dit « Ah bah justement, j'allais vous appeler, donc je me suis dit, parfait. On a convenu d'un rendez-vous, on est là pour être évalué, donc allons-y quoi. » D'abord, on s'intéresse à chaque personne de manière individuelle, donc l'histoire, l'enfance de chacun, son développement. Ensuite, il y a l'histoire du couple. Et ensuite, il y a l'histoire du projet d'adoption. Pourquoi l'adoption et quelles sont un peu nos visions là-dessus. Et sur les histoires personnelles, on creuse un peu sur notre enfance. Ça peut être un petit peu déroutant. Question, réponse, et puis une autre question qui n'avait peut-être pas forcément de lien avec ce qu'on venait de dire avant. Mais après, dans les échanges avec elle, au fur et à mesure des rendez-vous, on a eu droit à des petits sourires, on a eu droit à, pas non plus des blagues, faut pas déconner, mais on a eu droit à un peu plus d'attention. Elle a été assez délicate, toujours très, très respectueuse envers nous sur le fait qu'on soit un couple de même sexe. On sentait que, on était un couple, elle était là pour nous évaluer, et elle faisait exactement la même procédure qu'elle aurait fait avec n'importe quel couple, je pense. Elle nous a jamais, par exemple, dit « couple homosexuel », elle nous a toujours parlé de couple. Donc ça, on a apprécié, et elle était plutôt très bienveillante là-dessus. La psy, c'était un autre level. On arrive dans une maison, donc on monte à l'étage dans une petite pièce et on commence donc l'entretien, donc toujours sur le même schéma d'abord de manière individuelle un peu chaque personne, notre enfance, notre construction en tant qu'individu. Et mon conjoint commence et puis très rapidement elle lui pose la question « À quel moment vous avez décidé d'être homosexuel ?» Donc s'ensuit un petit blanc et en mode « J'ai pas décidé, enfin je sais pas, enfin je voilà, donc je lui réponds gentiment, évidemment, je sais pas à quel moment vous avez décidé d'être hétérosexuel, c'est un peu la même question, donc voilà. Et puis très rapidement, pendant le rendez-vous, on a dû entendre environ, 25 fois, sans grossir les traits, qu'on est un couple atypique, qu'on est des personnes atypiques. Donc au bout d'un moment, je lui ai demandé d'expliquer le terme atypique. Elle dit, vous comprenez. Oui, malheureusement, je comprends. c'est un peu étrange, mais OK. Et très rapidement aussi, elle nous parle d'elle, de son schéma familial, donc de ses enfants, de sa vie. Elle est très portée au niveau des sens et des émotions et un peu de spiritisme. Donc voilà, elle nous explique qu'on est sur Terre parce qu'on est des âmes et que c'est nous qui choisissons d'aller s'implanter au sein du ventre d'une femme. OK. Ensuite, elle nous parle un peu de religion, que Dieu a créé Adam et Ève pour créer l'humanité, et que Dieu n'a pas créé les hommes homosexuels. comment on le vit, nous, personnellement, ça. Ce à quoi je lui réponds avec un très grand calme, que je suis allé en école catholique, qu'elle ne sait pas si je suis croyant ou pas, et que je ne comprends pas sa question. Voilà, donc elle nous a demandé... elle a commencé sa question par... Bon, j'imagine que vous y avez pensé, mais voilà, pour un enfant, c'est important, le maternel. Enfin, on parle bien d'école maternelle. Donc, vous voyez, c'est important dans la construction de l'enfant. Enfin, voilà, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Ce à quoi on a répondu, bah, on est deux hommes, donc on aura deux côtés paternels, peut-être. Et puis voilà, mais... Enfin, on n'a pas compris le sens de la question. Et elle nous a dit très simplement que pour elle, en fait, un enfant a besoin d'une mère. Bon, bah, ok. Et plus ou moins, nous, on sort de là. Bon, sans un mot, on se regarde, on arrive dans la voiture et on se dit, mais il vient de se passer quoi? Elle est vraiment en train de dire ça, là? Elle déconne ou quoi? Et donc, du coup, on est allé au deuxième rendez-vous en se disant, mais qu'est-ce qu'elle va encore nous sortir comme dinguerie? Quand elle parle de notre atypisme, de notre homosexualité, parce que là, pour le coup, on l'a entendu... bon, elle a des petits regards, des petits sourires qui sont quand même un petit peu insistants parfois, surtout quand elle nous a demandé notre manière de vivre, entre guillemets. Elle voulait savoir un peu comment notre couple fonctionnait, mais genre par exemple au niveau des tâches ménagères. Bon, le cliché parfait en mode bah, qui fait l'homme, qui fait la femme, quoi. Donc on n'a pas trop compris ces questions-là. Très curieuse sur... sur notre manière de vivre, mais notre manière de vivre pas en tant que couple et avec le projet d'adoption, mais notre manière de vivre en tant qu'homme homosexuel. Comment vous faites, quoi? Donc ouais, ça a été assez assez insistant, parce que pendant deux heures avec elle, finalement on a parlé que de l'homosexualité quasiment, on a l'impression. Elle nous a accueillis comme des hommes homosexuels, et pas comme des hommes en couple qui souhaiteraient adopter. Et là, elle nous a, j'irais pas discriminer, mais en tout cas, elle nous a stigmatisé. Elle nous a dit que de toute façon, il y a des couples qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Bah, c'est tout. Dieu n'a pas prévu pour vous que vous soyez parents. Alors, on s'est demandé quand même si toutes ces provocations, si ça faisait partie du processus ou pas, pour voir un peu notre réaction. Enfin, elle est quand même psy. Et je me dis, mais l'évaluation, est-ce que le but... et de nous provoquer pour voir nos réactions. Est-ce que c'est de creuser? Ce que j'avais compris, c'était qu'elle doit creuser, voir si les traumatismes que nous avons, potentiellement, ne soient pas trop présents pour l'accueil d'un enfant. Mais elle m'a un petit peu remué, cette dame. En vrai, c'était un petit peu chelou, quoi. À aucun moment dans le processus, on nous demande, nous, comment on vit les choses. À aucun moment. Pendant tout ce processus, on peut rien dire. On est là, on répond aux questions, on se fait évaluer, quoi. Mais oui, en tout cas, ce n'est pas une adresse que je recommanderais. Ça, c'est sûr. Une fois qu'on a fini les rendez-vous... les pros nous envoient le rapport avant que le rapport soit présenté au conseil de famille et que la décision pour l'agrément soit prise. Et donc du coup, on a un droit de relecture. Et on peut faire nos retours aussi. Mais du coup, dans le fond, on ne peut pas apporter de modifications. Et quand on a reçu le rapport, l'assistante sociale, on a été très agréablement surpris. Là où j'avais l'impression qu'elle n'était pas très humaine, et qu'elle s'en fiche un petit peu, finalement, en fait, elle a super bien écouté, enfin, vraiment, elle a retranscrit très bien, et d'une manière neutre, vraiment très très bien, tous les échanges qu'on a eus. Donc j'ai trouvé ça très pro. Par contre, pour la psy, dans son rapport, on a un couple atypique, évidemment. Ensuite, elle dit aussi qu'on s'est tourné vers la GPA avec une de nos amies, mais que ça n'a pas marché. Et là, on s'est dit, mais... non, pas du tout. J'avais envie d'annoter, du coup, comme on a un droit de relecture, je me suis dit, je vais me faire plaisir. Et j'ai commencé, et très rapidement, je me suis dit, non, mais en fait, si j'annote tout en disant, non, mais t'es complètement taré, ou non, c'est pas ça, je vais me faire passer pour quelqu'un qui n'accepte pas qu'on dise des choses sur lui. Enfin, j'en sais rien. J'ai commencé à me monter à la tête. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est tout. Ça fait une nouvelle fois partie de l'évaluation. Et à la fin, donc, elles doivent conclure leur évaluation. Donc, l'assistante sociale, on comprend qu'elle est, pour elle, c'est OK. Tous les feux sont en vert. Pour la psy, c'est un peu, je sais pas, la conclusion, c'est en mode, c'est au vert, mais en même temps, ça reste un couple atypique, quoi. Je sais même pas ce qu'elle veut exprimer. Je me suis dit très vite, et avec mon conjoint, on s'est dit, bon, tant pis, on fait pas d'annotation, on attend. Et puis on verra la réponse, quoi. En sachant que si la réponse est négative pour l'agrément, on n'a pas de recours. Ça, on le sait. C'est en mode de oui ou non, et puis voilà, quoi. Et après, tu restes avec ça, quoi. Donc on a eu la réponse au mois de juin 2024, donc on a eu l'agrément, ça c'est la très bonne nouvelle. Donc l'agrément, il a une durée totale de 5 ans. Nos familles nous demandent, bah alors ça en est où? On leur a dit, bah on a l'agrément ça, vous le savez maintenant, c'est tout quoi. Et on nous dit, mais du coup c'est combien de temps à peu près? On dit, mais on sait pas. Parce qu'il n'y a pas de délai, et peut-être que ce ne sera jamais. Bah, on prend les choses comme elles viennent. Peut-être qu'on n'adoptera jamais. Peut-être qu'on aura cette chance. On ne sait pas. La petite chose sympa, c'est que notre agrément donc, est daté. Et c'est le jour de l'anniversaire de mon conjoint. On s'est dit, bah, peut-être que ça va nous porter chance. Quoi, et c'est plutôt un beau signe.
France Culture. Pieds sur terre.
Je m'appelle Léa Filoche, je suis adjointe à la maire de Paris en charge des solidarités, de la protection des réfugiés et de l'hébergement d'urgence. J'ai 47 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants. Il y a donc deux conseils de famille à Paris qui se réunissent chacun une fois par mois. Il y a à la fois un travail d'adoption immédiat sur des nourrissons, donc de mise en lien entre des enfants qui naissent sous le secret et des parents qui souhaitent adopter, et à la fois un suivi des parcours des jeunes qui sont confiés au département au titre de la protection de l'enfance. Donc un conseil de famille, il est constitué de 8 membres, avec une tutrice qui n'est donc pas membre votante du conseil de famille, mais qui est, on va dire, la grande coordinatrice de tout ça, et qui est nommée par l'État. C'est l'État qui assure et assume la coordination des membres du conseil de famille, parmi des personnes qui peuvent avoir une forme d'expertise. Il nomme aussi les représentants des associations familiales qui siègent à l'intérieur de ce conseil. Et c'est la maire de Paris qui nomme les deux représentants du département. Donc du coup, on a une vingtaine d'enfants qui naissent sous X dans Paris, qui sont répartis entre les deux conseils de famille, ce qui nous fait, nous, une petite dizaine d'enfants par an à mettre en lien avec des familles adoptantes. Quand j'ai commencé à siéger en conseil de famille, ben, j'ai aussi découvert qui était membre de ces instances. Et c'est vrai que j'ai remarqué assez vite que j'avais des associations familiales très orientées, catholiques pratiquants, plutôt réactionnaires et rétrogrades. Donc, voilà, c'est pas les associations familiales elles-mêmes qui peut-être posent problème, c'est peut-être leurs représentants dans ces instances-là qui, en tout cas, nous ont posé problème à plusieurs reprises. Au début, plutôt à moi, et à ma collègue représentante du département, mais les dissensions et les tensions se sont fait sentir à l'intérieur de ce conseil, parce que je constatais bien que les membres, notamment des associations familiales, votaient systématiquement pour le couple hétéro. Une grande partie, une majorité des membres de ce conseil, pour moi, étaient en dissension avec l'application de la loi, pour des raisons plutôt de valeur. La tutrice me l'avait presque dit une fois comme ça. Vous comprenez, Madame Filoche, l'adoption, c'est déjà une peine. Mais vous comprenez, si en plus, ils sont adoptés par un couple homosexuel, c'est un peu la double peine. Oh. Alors là, franchement, quand on entend des propos comme ça, c'est même plus seulement des valeurs catholiques réactionnaires. Là, on est même sur, clairement, des propos homophobes. Voyant que je ne parvenais pas à convaincre les personnes, j'ai ensuite essayé d'utiliser d'autres biais. J'ai proposé un vœu en Conseil de Paris en faveur de l'anonymat des couples présentés à la, comme adoptants, comme on l'a fait d'ailleurs dans d'autres administrations, qui a été adopté en Conseil de Paris, qui n'a jamais été appliqué. Mais c'était une première étape qui, pour moi, faisait savoir au-delà de l'intérieur du conseil que en fait il y avait un truc qui n'allait pas. Du coup, il y a d'autres personnes qui se sont mis à s'intéresser à ce sujet à l'intérieur du conseil de Paris, mais aussi un peu de médias qui se sont dit tiens, s'il y a un vœu comme ça, est-ce que ça veut dire que il y a un problème d'adoption pour les couples homo? Ensuite, j'avais écrit une tribune pour dire que ça serait bien que l'État se réintéresse et se réapproprie sérieusement le sujet des conseils de famille. Donc là aussi, il y avait d'autres élus du Conseil de Paris qui étaient venus me voir en me disant « Tiens, qu'est-ce qui se passe ?» Et puis, on va passer à la deuxième, on va dire qu'il y a deux couples homo sur trois qui vont être présentés. Je vous épargne la tête des membres du conseil de famille quand ils ont compris qu'en fait désormais on leur en présentait deux à chaque fois parce que c'était pour eux complètement improbable. Franchement, ça n'a rien changé au vote des membres du conseil de famille qui ont continué de manière très organisée et très coordonnée à voter que pour le couple hétéro qui était présenté. J'étais en colère en fait, j'étais systématiquement en colère. J'ai beau essayer toutes les parades et de mettre en place tout un tas de dispositifs, rien ne passait. Voilà, j'étais face à un mur. La tutrice, on a eu des échanges plutôt hors cadre. Mais une fois, quand même, en séance, on avait là un bébé qui était à l'adoption, mais il est proposé aussi que la mère de naissance puisse éventuellement laisser dans une enveloppe soit un mot, soit un moyen d'être retrouvé par l'enfant. À partir de ses 13 ans, s'il démarre des procédures de recherche d'origine, il pourra avoir cette enveloppe-là. Et là, en l'occurrence, la mère de naissance et son compagnon ont tous les deux laissé de quoi être retrouvés. Ensuite, il nous présente les trois couples adoptants. Et sur ces trois couples, il y a un couple homo et deux couples hétéros. Le critère souvent que j'utilisais était celui de l'ancienneté de la demande. Et très souvent, comme les couples homo n'avaient jamais réussi à adopter, bah leur demande était souvent la plus ancienne. Je vote pour le couple homo en premier lieu. Les autres membres du conseil votent pour le couple hétéro. Et là, la tutrice, qui encore une fois n'a pas le droit de vote, mais peut donner son avis, me dit « Mais Madame Filoche, là, vous avez bien vu que dans l'enveloppe, il y a un message de la part de la mère de naissance et du père de naissance. » Donc, vous imaginez, si l'enfant, à ses 13 ou 15 ans, ouvre cette enveloppe, qu'il découvre qu'il a un père et une mère de naissance, alors qu'il est élevé par deux papas, est-ce que ça va pas lui poser problème? Je dis, mais madame, jusqu'à nouvel ordre, les enfants sont tous faits de la même manière, avec un homme et une femme. Ça ne va rien changer à la capacité de développement et de grandir dans des bonnes conditions à l'enfant de savoir que... adopté par un couple homo, dont acte, mais ça n'enlève rien au fait que pour faire un enfant, il faut bien un monsieur et une dame. Je lui dis, mais donc du coup, votre problème, c'est quoi? C'est que cet enfant soit adopté par un couple homo parce que il pourrait retrouver trace d'une éventuelle mère de naissance et d'un éventuel père de naissance. Elle me dit oui. Je lui dis, mais en fait, le fond de votre problème, il est valable pas que pour cet enfant, il est valable pour tous les enfants à l'adoption. Et elle me dit oui. Un enfant ne peut ni être adopté ni être élevé par un couple homo parce que c'est contre nature. En fait, c'est ça qu'elle était en train de me dire. C'est contre nature. J'ai pris mes affaires et j'ai dit, écoutez là, moi je peux pas entendre un truc pareil. J'ai pris mes affaires et je suis partie. Et donc j'ai fait écrire à l'adjointe qui est en charge de la protection de l'enfance, je lui ai fait écrire une lettre au préfet de région pour dire que c'était pas possible. Pourquoi aucun couple homosexuel n'avait pu adopter à Paris depuis 2013. Et donc c'est là qu'ensuite la procédure s'est un peu enclenchée et que l'État s'est dit « Ah tiens, peut-être il se passe quelque chose et peut-être qu'il faut que je m'en mêle ». Et l'adjointe en charge de la lutte contre les discriminations de l'époque, elle a fait carrément un article 40 pour dénoncer l'attitude de la tutrice. Quand un fonctionnaire ou un élu constate qu'il y a non-respect de la loi, ça passe par un déclenchement de l'article 40 qui ensuite entame en fonction de la gravité de ce qui est dénoncé une procédure judiciaire. Ça a mis un peu de temps. Ensuite, j'ai été auditionnée deux fois par la police. Donc, dans le dernier conseil de famille mémoire de fin 2019, donc là, la tension est un peu à son comble. Ça fait déjà 6 ans qu'on essaye de faire appliquer la loi dans ce conseil, qu'on est effectivement face à un mur. Et donc, un représentant de l'État vient siéger à côté de la tutrice, avec qui j'étais donc en conflit ouvert depuis longtemps, lui demande à plusieurs reprises de se taire. Enfin, on voit bien qu'il est venu là pour la remplacer, en fait. et nous explique ce que moi j'expliquais depuis déjà plusieurs années, c'est-à-dire que le conseil de famille doit appliquer la loi, que la loi c'est que des couples homo doivent pouvoir adopter et que il n'est pas normal de constater que dans ce conseil-là, aucun enfant n'a pu être adopté par un couple homosexuel. Et que donc, il nous demande expressément à ce conseil de voter pour l'un des deux couples homo qui est présenté. Et en fait, c'est pas ce qui se passe. Les membres du conseil, je suis à nouveau la seule à voter pour un des deux couples homo, en l'occurrence celui qui est le plus ancien dans la demande, mais aucun des autres membres du conseil ne vote pour le couple homo. Et donc là, il est tout aussi pantois que moi. Et c'est là que, en fait, je dis, vous voyez bien, on peut pas s'en sortir. Ça fait 6 ans que ça dure, puisque c'est ça, je démissionne. Et donc je suis sortie de la salle et j'ai écrit une lettre ouverte de démission du conseil de famille, ne souhaitant plus légitimer cette instance par ma présence alors qu'elle n'appliquait pas la loi. Moi, j'ai démissionné en novembre et quand je suis revenue en conseil de famille en décembre 2020, la tutrice avait été démise de ses fonctions. Et c'est une des formes de sanction d'un conseil de discipline. Donc il y a bien eu quelque chose qui est resté en interne de l'administration d'État, mais qui a quand même fait bouger les choses. En tout cas, moi, je le constate aujourd'hui. Et depuis 2021, les choses sont beaucoup plus apaisées, sont beaucoup plus normales. La loi est respectée. Le sujet des couples homo n'est plus un sujet. Et même, on a même progressé encore, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus 3 dossiers qui sont présentés, mais 4. 2 couples hétéros, 1 couple homo et une personne seule proposée comme étant adoptant dans chacun des conseils de famille. Et donc, franchement, c'est un vrai soulagement, mais pas mal de fierté, parce qu'on a gagné.
C'était l'adoption pour tous, un reportage de Timothée de Roglaudre réalisé par Perret Legras. Merci à Jean, merci à l'association des parents gays et lesbiens ainsi qu'à Léa Filoche et à son équipe. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Notre stagiaire, c'est Inès Bouffartigue-Sébastien. I'm just visiting.